qu'un adjectif, plus qu'un nom, une couleur, une humeur, une qualité, noir. Population black, mouvement nègre, noir, c'est noir. Une histoire marquée de grands récits et de tragédies, avec ses héros et ses anonymes. Noir, une question de couleur de peau et de regard. Masculin, féminin, pluriel, quel mot ? Noir est le titre du récit et du spectacle de Tania de Montaigne où elle nous raconte la vie de Claudette Colvin, une vie simple dans l'Amérique de la ségrégation raciale, une figure presque effacée et toujours vivante dans l'histoire des luttes. Bonjour Tania de Montaigne.
Bonjour.
Comment vous l'entendez, ce mot qui fait titre, noir ?
Bah en fait, je l'entends comme un adjectif. Pas comme un mot, justement. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ce que produit Claudette Colvin en faisant ce geste, c'est bien l'idée d'obliger les gens à ne plus penser que noir, ce serait une identité, un nom, et que ce serait quelque chose de figé, mais que au contraire, c'est un adjectif, donc ça la définit vraiment pour partie, puis qu'il y a tout le reste. Et le reste, c'est que c'est une citoyenne.
Avec ou sans majuscule ?
Ah non, sans majuscule. Si vous mettez une majuscule, vous dites justement que c'est un nom, et donc vous associez l'idée qu'il y aurait une identité qui irait avec ce nom. Et que si vous dites noir, vous auriez tout dit de quelqu'un. Si c'est un adjectif, vous êtes obligé de me dire « et ». Si je vous dis « il y a une noire », vous êtes obligé de me demander « c'est-à-dire ».
Donc vous ne le réclamez pas, vous ne le clamez pas ce mot.
Ah bah si, en fait je réclame qu'on puisse le dire pour qu'on arrête de faire des circonvolutions dans tous les sens quand on veut parler de quelqu'un, mais ça marche pour noir, ça marche pour juif, musulman, c'est-à-dire arrêter de vouloir sans arrêt contourner les mots, mais en même temps les dire pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire si c'est un adjectif, encore une fois, vous êtes obligé de vous intéresser à la personne en face de vous, puisque vous ne pouvez pas partir du principe que vous savez qui elle est.
Donc c'est juste un détail ?
Non, pas ça n'est pas fait. Un détail, parce que quand vous êtes dans une situation de ségrégation, ou si vous êtes juif à Berlin dans les années 30, ça n'est pas un détail. Mais ça n'est pas un détail parce que l'idéologie qui est en face de vous, vous dit justement que vous n'êtes que ce mot. Et qu'à partir de ce mot, vous n'êtes donc plus dans un registre d'humanité et d'égalité, vous devenez quelqu'un à part. Et donc dans ce côté à part, au fur et à mesure, vous devenez un objet, puisque à partir du moment où vous sortez de l'humanité, vous n'êtes plus dans un registre qui est le registre de la relation humaine, vous êtes ailleurs.
C'est passionnant ce pouvoir des mots.
Ah,
ce glissement des mots même.
C'est ce qui fait que c'est quand même un vrai sujet d'être humain et d'être au monde aussi. C'est que nous avons pour nous les mots, et contre nous, les mots. Parce que parfois, on parle de quelque chose, tout le monde croit qu'on parle de la même chose, mais pas du tout.
Vous, Tania de Montaigne, vivant en France aujourd'hui, comment vous imaginez ou comprenez, là, je ne sais pas quel verbe employer, la ségrégation raciale dans les années 50 aux États-Unis ? Est-ce imaginable pour vous ?
C'est justement ma chance, c'est que je dois l'imaginer. Ma chance, c'est que je suis française et que j'ai pas grandi en Alabama dans les années 50 ou même avant. Donc, je dois faire ce trajet et c'est pour ça que je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire pour raconter vraiment ce qu'il y a de fort dans le geste que fait Claudette Colvin. Et je me suis dit, peut-être que je peux faire avec le lecteur le voyage de comprendre, donc de resituer, de se remettre dans cet endroit et de comprendre, en fait, comment est-ce que tout un appareil légal vient dire à quelqu'un qui n'est pas un citoyen. Comment est-ce que ça s'organise? Je me suis dit, si on fait le chemin ensemble du quotidien, en fait, parce que c'est ça, en fait, ce qui est flagrant quand on regarde une mécanique comme celle-ci de la ségrégation, mais quand on regarde aussi comment se fabrique un génocide, ça commence toujours par des petites choses du quotidien qui viennent dire à la personne qu'elle ne pourra plus être à cet endroit-là. Et donc c'est, tu vas faire tes courses, il n'y a pas de problème, mais tu iras plutôt dans ce magasin-là. Ou tu peux prendre un bus, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'en fait, toi, tu vas le prendre plutôt à cet endroit. C'est ces déplacements, en fait. Donc je me suis dit que par la géographie et par le quotidien, on allait commencer à pouvoir sentir, en fait, parce que imaginer, c'est un truc, mais sentir ce que c'est, ça, c'est ce qui m'intéressait, quoi.
Séparés mais égaux sont les noms de la ségrégation raciale. Mmh. C'est une sacrée dialectique, quand même.
Oui, oui, il y a une rhétorique là-dedans. D'ailleurs, pour écrire le livre, en fait, moi, je me suis intéressée à toutes les mécaniques, en fait, donc celles de Jim Crow, donc des lois du sud des États-Unis. Mais quand on regardait comment était pensé l'apartheid, le responsable de tout ça, il expliquait justement qu'en fait, c'est bien parce que les gens sont différents que on imagine l'apartheid, parce que bah oui, les noirs, bah c'est prouvé, ils ont quand même pas le même cerveau, ils sont plus lents, donc c'est pour ça qu'il faut des écoles spéciales. Et puis c'est mieux qu'ils vivent ensemble, parce que les noirs, c'est bien connu, c'est mieux qu'ils soient ensemble et tout ça. Donc il y avait toute une réflexion qui s'inscrivait dans un appareil juridique, et c'est ça qui m'intéressait, c'est que toujours, quand on voit les lois de Vichy, quand on voit les lois, c'est toujours cette dynamique-là, c'est de dire, on va produire de la loi qui va venir justifier, qui va venir dire, bah oui, c'est normal, ils sont pas comme nous, donc voilà comment on va faire.
C'est un apartheid, la ségrégation raciale aux États-Unis.
De toute façon, c'est ce principe-là.
On l'a pas appelé apartheid, mais c'est la même chose.
Bien sûr.
Alors, dans ce contexte-là, vous nous racontez, Tania de Montaigne, la vie de Claudette Colvin. Vous dites Colvin, d'ailleurs, hein. C'est moi qui francise un peu.
Bah non, mais, très
Colvin,
bien.
Allez, je vais tenter Colvin.
Non, mais on est fous.
Alors, Claudette Colvin, donc, qui un jour de mars 1955 a contribué à ébranler la ségrégation raciale aux États-Unis. Et alors, pour ce faire, sur scène, puisque on en parlera, c'était un livre, c'est devenu un spectacle, vous demandez une certaine imagination au spectateur. Je suis un noir de l'État d'Alabama, dans le sud des États-Unis.
Vous êtes donc un nègre de Montgomery, Alabama, qui attend le bus au coin de Hall Street et Jeff Davis Avenue. Quand il arrive, vous montez, vous payez votre billet, puis vous rejoignez l'arrière du bus en passant par l'extérieur. Car il est hors de question que vous soyez amené à côtoyer des Blancs, ne serait-ce qu'en empruntant la travée centrale. Les Noirs sont au fond et les Blancs à l'avant. Donc, après avoir payé, vous redescendez et peut-être pourrez-vous monter par la porte du fond. Ou peut-être pas. C'est le chauffeur qui décide, il a tout pouvoir et il porte une arme. Il se peut qu'il choisisse de démarrer alors que vous n'êtes pas encore monté. Il se peut qu'en agissant de la sorte, il vous emporte un bras ou une jambe. Il se peut que vous tombiez. Mais à qui vous plaindrez-vous ? À des policiers blancs ? En faisant cette démarche, vous vous exposez au mieux à des insultes, au pire à moisir en prison, puisque votre parole vaudra toujours moins que celle du chauffeur, ou au pire du pire, à finir pendu à un arbre. Black body swinging in the southern breeze, strange road hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, to drop. Here's a strange and bitter cry.
En En fait, dois-je le reconnaître, je ne suis pas noir et encore moins un citoyen de l'Alabama. Mais cette chanson de Billie Holiday, c'est, je trouve, juste chaque fois le frisson assuré, alors qu'elle est un peu antérieure, mais c'est la même période que ce que vous racontez dans votre spectacle, Tania de Montaigne.
Mais moi, je crois que vous êtes noir. Et que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, Strange Fruit, c'est une chanson qui a été écrite par un blanc. Et en fait, il vient chercher l'humanité qu'il a en lui, et il se dit que ça n'est pas possible, et ça vient le heurter en tant qu'être humain. Et c'était bien ça le sujet aussi, c'était de dire que, parce que moi je suis pas née en Alabama, et donc le fait que je sois noire, entre autres, ne dit rien de ce que je peux comprendre de quelqu'un qui est en Alabama dans les années 50. Donc c'est pas par ma couleur que je comprends ce qui a lieu. C'est parce qu'à un moment, justement, c'est pour ça que c'est un voyage qu'on fait tous ensemble. C'est de dire, on va essayer de rentrer dans cette ville, de rentrer dans cette absurdité de ces règles qui régissent la vie des gens et de regarder ce que ça produit sur nous. Cette violence, en fait, qu'est-ce que ça fait au quotidien de se dire, bah tiens, on va aller faire les courses avec Claudette. Ah non, on reste dehors parce que comme on est noir, on peut pas, mais on peut quand même prendre notre argent, hein, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on veut pas qu'il y ait de lien incarné entre celui qui prend l'argent et celui qui le donne.
On ne peut pas se toucher alors qu'on est en égalité d'émotion. Voilà. Devant votre spectacle, en tout cas.
Bah, c'est pour ça que le sujet, c'est celui qui a prévalu à l'écriture de Strange Fruit. C'est celui qui fait aussi que démarre le boycott. Le boycott, il démarre avec une association qui s'appelle la NAACP et qui est une association qui s'est créée dans les années 20 à la suite d'une vague de lynchage. Et elle s'est créée avec des gens de toutes les couleurs et de toutes les religions qui se sont dit, non mais nous on a un point commun, c'est qu'on est américain. Et en fait, ça ne peut pas être fait en notre nom. On ne peut pas être citoyen d'un pays qui fait ça. Et c'est ça le sujet toujours. Et aujourd'hui, dans notre vie, nous sommes sans arrêt questionnés sur ça. Dès qu'en fait on se met en retrait et qu'on dit, ah oui, non, c'est pas... Non, moi je suis pas juif, je suis pas musulman, je suis pas noir, je suis pas une femme, je suis pas transgenre, je suis pas... Il y a plein de choses qu'on n'est pas. Mais en fait, ce qui fait qu'on fait société, c'est justement toutes les choses qu'on est.
Prenez une profonde inspiration, soufflez, suivez ma voix, désormais vous êtes noir, ce sont les premiers mots de votre spectacle. En fait, c'est la définition de la catharsis au théâtre, c'est-à-dire il faut qu'on vive ce qui est dit sur scène. Et tout cela est dit avec une douceur désarmante, presque envoûtante.
Oh, ça c'est pas mal. Bah en fait c'était...
Bah c'est vous qui êtes pas mal, au passage.
En fait, en tout cas, ça c'est vraiment le travail de Stéphane Fuenquinos, qui est le metteur en scène de la pièce, et c'est vraiment lui qui a l'initiative de tout le projet. Hein. C'est vraiment sa vision qu'on a essayé de faire sur scène. Et en fait, moi, c'était tout le travail de mon livre, de celui-là, et même de ceux qui suivent, c'était que ça soit pas la colère... En tout cas, pas la colère mise au service de l'exclusion de celui qui lit. Ça ne m'intéresse pas parce que, à partir du moment où on a fait ça, une fois qu'on a dit à quelqu'un « tu n'es pas moi, je souffre énormément », qu'est-ce que vous voulez que l'autre vous oppose ? Bah, c'est vrai, je suis pas toi. Et puis, la souffrance, on peut rien en dire. C'est la chose la plus singulière. Donc, une fois quelqu'un m'a dit « je souffre beaucoup », bah, à part dire « ah ouais, je peux constater que tu souffres », mais c'est tout. Et moi, ça m'intéresse pas tellement d'être à cet endroit-là parce que c'est pas un endroit politique, en fait. La politique, elle commence quand je peux dire à l'autre « voilà ce qui se produit, et cette chose qui se produit, c'est ton sujet ». Donc, la question de la politique, c'est bien que mon regard devienne le vôtre. C'est ça, le sujet.
Et donc, un jour, une jeune fille, le 2 mars 1955, ne se lève pas.
Debout, assis, assis, debout. Le mercredi 2 mars 1955, la jeune fille, qui n'a que 15 ans, sort des cours et rejoint l'arrêt de bus en utilisant le trottoir qu'empruntent les écoliers noirs. Elle monte dans le bus, tend son ticket et s'assoit avec ses camarades au troisième rang de la section réservée aux noirs. Elle s'installe près de la fenêtre. À ce moment du trajet, aucun passager blanc n'est présent. Les 10 premiers rangs sont vides. Puis le bus rejoint les abords du centre-ville. Les employés blancs commencent à affluer. Les places avant se remplissent rapidement. Lorsque Claudette sort de sa rêverie, elle s'aperçoit qu'une femme blanche se tient debout face à elle et la fixe sans un mot. C'est peut-être à ce silence que Claudette répond en ne se levant pas. C'est peut-être à ce regard qui ordonne, à cette façon d'être sûre de son bon droit que la jeune fille oppose sa résistance passive. C'est peut-être l'effet de la colère soulevée comme le vent soulève la poussière. Difficile de dire ce qui conditionne les actes. Sûrement un mélange du passé et de l'instant. Alors, Claudette ne bouge pas.
Cette jeune fille, c'est donc Claudette Colvin, Tania de Montaigne. Comment avez-vous découvert cette histoire, cette femme, puisque vous le dites vous-même, c'est une vie totalement méconnue, et qu'avant le spectacle, il y a eu un livre. C'est pas tout à fait une biographie, mais
c'est une biographie, hein.
Oui, enfin, un peu romancée quand même, non?
Ah non.
Pas du tout.
Non. En fait, ce livre est né de la volonté de deux éditrices qui ont créé une collection chez Grasset qui s'appelle Nos Héroïnes. Les deux éditrices, c'est Caroline Forest et Fiammetta Venner. Et elles se sont dit, il faudrait qu'on crée une collection qui permettrait que des femmes auteurs, donc au sens large, des historiennes, des romancières, racontent d'autres femmes qui ont fait l'histoire, mais que l'histoire n'a pas retenu. Et il y a deux contraintes dans cette collection, c'est la taille. Donc l'idée, c'était de faire une collection que les livres dépassent pas 160 ou 200 pages. Et puis l'autre contrainte, c'est que celle qui écrit doit être dans le récit d'une façon ou d'une autre. Mais ce sont des biographies. Donc c'était ça la difficulté pour moi, c'est que c'était la première biographie que j'écrivais. Donc il fallait être dans une enquête et dans le respect de ce qui est dit. En même temps, ça m'intéressait parce que Claudette Colvin, c'est quand même quelqu'un qu'on a beaucoup fait parler, et même les autres personnes, les autres protagonistes, que ce soit Rosa Parks, enfin toutes les femmes, en fait, d'autres hommes les font parler, mais en gros, elles ne parlent pas. Donc ça m'intéressait de les restituer dans leurs paroles. Et puis après, il fallait trouver justement comment j'allais être dans le livre sans prendre toute la place, parce que je découvrais au fur et à mesure des femmes, Joan Gibson Robinson, qui est la cheville ouvrière, sans elle, il n'y a pas de boycott. Bah voilà, toutes ces femmes-là, il fallait leur laisser de la place. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, bah, peut-être je peux faire ça, de faire le voyage avec le lecteur, et ma place ce sera celle-là, celle d'accompagner le lecteur dans la traversée de cette vie.
Parce qu'il y a une chronologie qui commence donc avec Claudette Colvin, le 2 mars 55, elle ne se lève pas, il y a procès, on va y revenir, et puis quelques mois après, Rosa Parks, qui fait le même geste, et là ça fait vraiment absolument tout péter, si j'ose dire. La différence entre les deux gestes, c'est quoi ?
Alors, entre les deux gestes, il n'y a aucune différence, hein. C'est-à-dire que le fait de pas se lever dans un bus, ça, c'est pas inédit. D'autres passagers, femmes ou hommes, à un moment, en peuvent plus, et voilà. Donc ça, en général, ce qui arrive, c'est que vous êtes... Alors, si vous n'avez pas de chance, le chauffeur vous tue, puisqu'il a une arme et puis il a tout pouvoir dans son bus. Si vous avez un peu plus de chance, des policiers viennent vous arrêter, mais ça n'est que le début du voyage. Vous pouvez ne pas arriver jusqu'au commissariat. Et puis une fois que vous y êtes, si vous êtes arrivé jusque-là, en général, vous plaidez coupable, vous payez votre amende et vous partez. C'est ce qui s'est passé jusque-là. Et Claudette Colvin, c'est la première qui, alors qu'elle a 15 ans, faut quand même voir ça, va décider de plaider non coupable et de poursuivre la ville. Ça, c'est inédit. Et donc, 9 mois plus tard, c'est exactement ce que refera Rosa Parks. Parce que, déjà, Rosa Parks, elle a été là tout du long.
C'est elle, oui, elle est dans l'ombre.
Elle est à côté, elle qui, tout de suite, quand elle apprend que Claudette Colvin, parce que son travail à Rosa Parks, c'est de savoir ce qui se passe. C'est elle qui recense toutes les violences qui ont lieu, non seulement à Montgomery, mais aux alentours, en fait, pour l'association, la NAACP. Donc, elle sait tout de suite qu'il se passe quelque chose pour Claudette Colvin. Et comme c'est quelqu'un de très militant, ça fait 20 ans qu'elle est sur le pont, et c'est quelqu'un de très radical aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, sa radicalité va disparaître avec son geste parce qu'on n'évoquera jamais son militantisme, mais elle veut un boycott. Et donc tout de suite, elle s'organise, elle contacte Fred Gray qui va devenir l'avocat de Rosa Parks, de Claudette Colvin, mais qui deviendra ensuite le sien et celui de Martin Luther King. Elle appelle ce jeune avocat et elle lui dit bon là, faut qu'on entame quelque chose. Elle s'organise pour trouver l'argent pour payer l'avocat. Donc elle est tout de suite là, quoi. Et le fait que à un moment, Claudette Colvin ne soit plus suivie, pour elle, c'est un problème. Donc, quand elle fait ce geste, elle se dit, bon là, maintenant, on y va. Et en fait, Claudette Colvin, c'est aussi le fait que ça ne fonctionne pas, ça fait que pour cette femme-là, pour Rosa Parks et pour Joan Gibson Robinson, elles se disent, la prochaine fois, on ne préviendra plus les hommes et on compte plus sur eux. Donc, c'est ça qui fait que ça déclenche le mouvement.
Et c'est aussi parce qu'il y a un boycott des transports.
Oui, mais le boycott, il est initié par Joan Gibson Robinson, parce que la première fois, elle voulait déjà le faire, mais que elle s'est dit, bon, on va voir avec les hommes comment on s'organise, et les hommes, en fait, ils voulaient pas de boycott. Et a priori, il semblait que ça allait bien se passer pour Claudette au niveau de son procès, donc elle s'est dit, bon, bah, ils ont raison, si ça se passe bien et tout. Puis quand elle a vu que c'était un carnage, elle s'est dit, la prochaine qui fera ce geste-là, moi, je demande plus à personne. Et effectivement, c'est par elle que va démarrer le boycott. Mais sinon, il se serait rien passé, pas plus, hein.
Noir, extrait de votre spectacle.
Please decline your identity.
Claudette Colvin.
What is your address, Miss Colvin?
658 Dixie Drive.
How old are you?
15.
15 ans.
Who are your parents?
C.P. Colvin and Marianne Colvin.
Do you take the bus?
Prenez-vous le bus?
Yes.
How often?
Twice a day.
Deux fois par jour.
Have you witnessed an incident while on the bus?
Avez-vous été victime d'un incident?
When?
On March 2nd, 1955.
Le 2 mars 1955.
What bus do you usually take?
Quel bus prenez-vous?
Highland Gardens.
At what time did that incident occur?
About 2:30.
14h30.
Where were you heading to?
I was going home after school.
Où vous rendiez-vous? Je rentrais à la maison après l'école.
Extrait du procès de Claudette Colvin, mais en fait c'est une reconstitution, il n'y a pas d'archives de ce procès, mais ce qui est beau, Danielle Montaigne, c'est que vous la faites parler, vous lui donnez voix, au sens propre là.
Bah là c'est Stéphane Fuenquinos, le metteur en scène, qui tout de suite avait cette idée-là, et en fait ce qui est très touchant, c'est que quand les spectateurs sont pris dans l'aventure, bah en sortant, tout le monde me dit « Ah, cette archive, c'est extraordinaire
!» Dois-je avouer que, personnellement aussi, j'ai cru.
Voilà, et c'est ça qui est incroyable, parce que on a essayé de faire en sorte qu'on sente ce qui se produit pendant ce moment-là pour elle.
Mais dans votre biographie, ça a dû être un énorme travail, parce qu'il y a très très peu de choses sur Claudette Colvin. Il y a très peu de photos, par exemple. Il y en a une qu'on voit dans le spectacle, où elle est toute mignonne, avec des lunettes cerclées, les dents un peu écartées, et puis elle est coiffée avec des cheveux ondulés, comme dans les années 50, mais il y a très très peu d'images, très peu d'enregistrements. Oui. Elle vit encore. Oui. Est-ce que vous l'avez rencontrée?
Alors, quand j'ai commencé à écrire le livre, donc moi je suis partie de trois lignes qui, après, j'ai compris qu'elles étaient fausses, où on la décrivait comme une espèce de grosse punk, et surtout on disait qu'en fait elle aurait pu être Rosa Parks, mais qu'elle n'avait pas été Rosa Parks parce qu'elle était enceinte. Et donc je me disais, ah bon? Et puis je m'aperçois qu'elle est en vie, donc évidemment mon premier réflexe c'est de la contacter, mais en fait elle ne veut plus parler. Donc au début je me disais, oh mince, et les éditrices m'ont dit, bon c'est pas une collection d'entretiens, donc continue ton trajet. Et en fait je me suis rendu compte après que c'était bien que je l'ai pas rencontrée, parce qu'elle a fait un tout petit livre quand elle est partie à la retraite, donc elle devait avoir aux alentours de 70 ans à peu près, et qui est un livre, alors là vraiment, où on prend en note ce qu'elle dit, hein, donc c'est un petit livre comme ça. Et si je l'avais rencontrée, en fait, je n'aurais pas pu mettre en perspective ce qu'elle dit. J'aurais été prise, ce qui est normal, dans la loyauté de ce qu'elle me raconte et tout ça. Or, il y a tout un pan qui est assez flou, enfin, c'est assez compliqué. Et là, en fait, ce qui était intéressant, c'est que du coup, je suis allée la chercher. Donc, d'abord chez Rosa Parks, donc dans l'autobiographie de Rosa Parks. Donc, il y avait quelques lignes. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert Joan Gibson Robinson. Donc, je suis partie dans la biographie de Joan Gibson Robinson. Là, il y avait plus de choses parce que elle a vraiment accompagné cette jeune fille. Et puis, surtout, elle la décrivait à l'inverse de ce qu'on racontait sur elle, donc ça m'a intéressée. Et puis en remontant le fil, après je suis allée vraiment sur des biographies historiques, sur la lutte, les femmes dans la lutte, etc. Et en fait, je me rendais compte au fur et à mesure que ce qui était décrit, c'était une reconstitution qui est presque en miroir de ce qu'on dit de Rosa Parks, ce qui n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire Rosa Parks, c'est cette petite couturière fatiguée qui sort du travail, qui a mal aux pieds, et c'est pour ça qu'elle se lève pas. Donc c'est ses pieds qui décident, pas sa tête. Et donc on oublie complètement qu'en fait c'est vraiment la tête de Rosa Parks qui décide de pas se lever. Donc ça c'est d'un côté. Et d'ailleurs dans son autobiographie, Rosa Parks, c'est très drôle, elle dit, non mais je ne sais pas comment mes pieds sont arrivés dans l'histoire, parce que moi j'ai parlé de mes pieds à personne, quoi. Et pareil pour le ventre de Claudette Colvin, elle n'est évidemment pas enceinte au moment où tout se produit, parce que sinon personne ne l'aurait suivi. On est quand même dans les années 50. C'est quand même un mouvement religieux qui part de Pasteur. Donc c'est inenvisageable. Il serait pas parti au procès comme ça. Il serait certainement pas allé en appel non plus. Et donc je me suis dit, à moins qu'elle soit enceinte pendant 18 mois, ce qui est quand même très rare pour un être humain, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc je me suis rendu compte que c'était une recréation, et que de la même façon que Rosa Parks, c'est ses pieds, eh bien Claudette Colvin, ce qui l'exclut, c'est son ventre. Et comme vraiment un miroir, il y a quelque chose de très biblique aussi là-dedans.
Et toujours une histoire d'exclusion. Est-ce que vous diriez, Danielle Montaigne, que c'est un destin raté?
Il n'est pas raté, parce qu'elle a fait une vie. Déjà, elle a maintenu son geste, parce qu'elle accepte de plaider non coupable. Elle va avoir un premier procès, qui est une catastrophe. Elle part en appel, elle dit oui. Ok, elle y va, bon, c'est terrible. Et puis, on va quand même venir la rechercher, parce que quand le boycott démarre, au bout d'un moment, c'est un peu enlisé, puis il y a deux lignes, en fait, dans le mouvement. Il y a ceux qui veulent négocier, qui sont majoritaires au début, et il y a quelques gens comme Rosa Parks et Joan Gibson Robinson qui sont sur il faut qu'on aille plus loin. Et en fait, finalement, comme la situation se tend, puisque le maire de Montgomery ne comprend rien, et à ce niveau-là il ressemble énormément à ce qu'on vit aujourd'hui, puisqu'il se dit, il faut que je profite de cette peur qu'ont les blancs du Sud, ça va me faire des électeurs, donc il faut que je continue à tendre la situation. S'il avait accepté les demandes qui au départ étaient vraiment minimes, c'était, est-ce que les chauffeurs peuvent s'arrêter quand ils vont dans le quartier noir, est-ce qu'ils peuvent s'arrêter aux arrêts? Puis est-ce qu'il pourrait être poli en fait? Donc on était vraiment sur des demandes. Il aurait dit oui. Je pense qu'on était encore en train de vivre la ségrégation. Mais comme il dit non, ça se tend et puis il attise la peur. Donc il commence à y avoir des attentats qui sont commis par des extrémistes blancs. Et c'est parce qu'il y a les attentats que d'un coup toute la partie beaucoup plus radicale, on leur dit ok, allez-y, on part sur un procès, une class action et on va à la Cour suprême. Et là il faut rappeler Claudette Colvin. Et elle dit oui alors qu'elle sait déjà tout. Donc pour moi ça n'est pas raté parce qu'il y a une constance. Et que c'est ça qui compte.
Aujourd'hui, vous avez 79 ans. Et un homme noir dont la mère est blanche a été président des États-Unis. Aujourd'hui, vous avez 79 ans. Et à Montgomery, Alabama, il y a enfin une rue qui porte votre nom. Elle n'est pas située en centre-ville. Ça n'est pas une rue où l'on vient flâner les soirs d'été. Non, c'est une rue où la misère le dispute à l'ennui. Une rue où c'est toujours l'hiver. Aujourd'hui, vous avez 79 ans. Et lorsque je vous regarde, je me dis qu'il fallait être quelqu'un pour être celle qui n'était pas Rosa Parks.
Fin du spectacle noir, Tanyaan Montaigne, avec toujours cette voix douce, pleine d'émotion. Finalement, je me dis que vous préférez peut-être les inconnus aux femmes célèbres. Est-ce que vous aimez la lumière de la scène ou est-ce que vous préférez l'ombre des pages blanches?
Alors, je ne sais pas si j'aime la lumière de la scène, mais en tout cas, j'aime la façon dont Stéphane Fuenkinos a pensé ce spectacle et la façon dont on peut mettre dans l'esprit de chacun le fait qu'il y a une petite jeune fille qui maintenant est une dame de presque 80 ans qui existe et qui a fait ce qui lui semblait juste.
Mais c'était important de le dire, de passer de l'écrit à l'oral. Est-ce que ça modifie le corps? Est-ce que ça modifie la compréhension?
En fait, ce que ça modifie, c'est surtout que ça vient parler à des gens qui, a priori, peut-être connaissent pas le livre. Et ça vient à un autre endroit, en fait. Donc, c'est juste que ça permet de continuer à raconter cette histoire. Et de toute façon, les gens n'existent que parce que on dit qu'ils existent. Donc, plus il y a de gens qui savent qu'elle existe, plus il y a des gens qui la racontent. Et plus, elle est dans nos mémoires. Et puis, c'est une figure possible aussi.
Donc, c'était une évidence pour vous qui n'étiez pas habitué à la scène?
Ça n'était pas du tout une évidence. Mais alors, du tout.
Vous avez eu un peu les jetons?
Surtout, j'ai dit non. En fait, c'est quand même ça. Et puis, finalement, Stéphane m'a dit « Non, mais on va faire juste une lecture. » je vais mettre en scène, mais c'est une lecture. Donc, c'est ce qu'on a fait à Orléans, au CDN. Et en fait, à cette lecture, il y avait des gens qui n'étaient jamais allés au théâtre de leur vie, qui sont venus. Donc, je suis allée les voir. Et donc, on a discuté pendant 2 heures. Et quelque chose s'était produit pour eux autour de Claudette et puis des questions que ça génère sur le racisme, le sexisme, voilà. Et donc, je me suis dit « Ah bon, alors si le théâtre, ça fait ça, alors moi, je veux bien... c'est ça qu'on doit faire, oui, c'est sûr. »
Et dans cette idée de propagation d'une certaine façon, de conviction aussi. Vous adaptez votre roman en bande dessinée avec...
Enfin, c'est pas moi qui l'adapte.
Émilie Plateau.
C'est Émilie,
C'est Émilie Plateau qui l'adapte, mais ce sont vos mots et c'est l'histoire toujours de la petite Claudette.
Ouais, absolument.
C'est pour toucher des plus jeunes, c'est pour toucher des... un autre public.
Oui, c'est encore une fois, et puis c'est un autre regard, c'est-à-dire Émilie Plateau, moi j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait par ailleurs, et ça m'intéressait de voir son regard porté. C'est pour ça que je dis que c'est son adaptation, parce que c'est vraiment elle qui a regardé un endroit du livre et qui a dit voilà, moi j'aimerais le raconter comme ça. En plus, il y avait toute une interrogation parce que le livre il permet quelque chose, c'est que moi je respecte les zones d'ombre des uns et des autres. Donc ce que dit Claudette d'elle-même, je ne vais pas le questionner. Et il y a plein d'endroits qu'elle dit pas, qui sont pas précis, on peut pas savoir exactement. Dans le livre, vous pouvez faire ça. La question, c'était comment est-ce qu'elle allait faire ça en BD. Donc alors là, il y a eu plein d'interrogations, et je trouve qu'elle a trouvé des solutions qui sont vraiment magnifiques et qui sont totalement en lien avec son instrument, qui est le visuel. C'est d'une grande beauté et d'une... Elle a réussi à dessiner le silence.
Donc noir à lire, d'abord votre roman édité chez Grasset, la bande dessinée illustrée adaptée par Émilie Plateau chez Dargaud, et puis bien sûr le spectacle, vous êtes sur scène, Tanyaan Montaigne, dans la mise en scène de Stéphane Fuenkinos au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 30 juin. Merci beaucoup.
C'est moi, merci.
Pascal Paradou, Véronique Durand, Louise Kalédek, Guillaume Ploquin à la réalisation, à demain.